Et retour sur Alpe 1 avec ce débat de l'entre-deux-tours des législatives sur la première circonscription des Hautes-Alpes. À mes côtés, Anna Fréjus d'Alpe Midi, Fabrice Marguéillan du Dauphiné Libéré, bien sûr les candidats Jérôme Sainte-Marie pour le Rassemblement National et Marie-Josée Allemand pour le Nouveau Front Populaire. Avec l'un des sujets aussi, hein, l'économie dans les Hautes-Alpes et des chiffres qui viennent de France Travail, des chiffres du mois de mars. Il y a dans les Hautes-Alpes 10 890 projets d'emploi. Pratiquement 66% ne sont aujourd'hui pas pourvus. On prend quelques exemples. Dans l'agriculture, ce sont 72% de projets d'emploi qui ne sont pas pourvus. 53% pour l'hôtellerie-restauration, 61% pour la santé humaine et l'action sociale. Et donc cette question, Fabrice Marguéillan du Dauphiné Libéré.
Oui, la France a un taux de chômage de 7,5% au premier trimestre 2024. Ce taux pour les moins de 24 ans grimpe à 17,2, et malgré ce nombre de chômeurs, plusieurs secteurs de l'économie, comme vient de le rappeler Cyrielle, rencontrent de sérieux problèmes de main-d'œuvre et peinent à recruter. Comment est-ce que vous analysez ce problème, et si vous êtes demain à l'Assemblée, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour y remédier, Monsieur Sainte-Marie?
Il y a effectivement probablement des dispositifs, des dispositifs qui font que la différence entre ce que vous recevez sans travailler et ce que vous recevez en travaillant est assez faible. C'est pour ça que plutôt, alors on considère que la plupart des dispositifs d'assistance sociale sont utiles pour les gens, notamment les catégories populaires qui connaissent des carrières heurtées, etc. Nous, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est de permettre une hausse de 10% des salaires en permettant aux entreprises qui augmenteraient ces salaires de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC, en les exonérant de l'augmentation des cotisations patronales pendant 3 à 5 ans. De manière générale, tout ce qui concerne les impôts de production, on aura tendance à les contenir ou à les baisser pour favoriser cela. Et toute notre philosophie, c'est d'accroître l'écart entre les revenus du travail et les revenus du non-travail. C'est ce qui nous paraît absolument essentiel. Après, il faut effectivement avoir une logique qui soit relativement protectionniste. Je prends un exemple. On va essayer de faire pour l'agriculture que les cantines soient obligées de consommer local, en quelque sorte, de proposer des produits locaux. Et on reviendra sur un certain nombre, enfin en tout cas on renégociera ou on empêchera le passage de certains traités internationaux, notamment en matière agricole, qui nous placent dans une situation de concurrence déloyale. C'est tout simplement permettant aux entreprises de prospérer, à mon avis, que l'on pourra permettre à des augmentations de salaire. C'est le modèle, en fait.
Là, savez, la question n'était pas sur l'augmentation de salaire, c'était sur les besoins en main-d'œuvre qui ne sont pas pourvus.
Parce que c'est le cas, vous savez, on vit. La question est incitative. Si effectivement vous avez des gens qui considèrent que les contraintes du travail ne sont pas satisfaisantes par rapport à leurs revenus, ils ne viennent pas. Inversement, si vous avez la possibilité de payer plus, à ce moment-là, les gens viennent travailler. C'est uniquement cette logique incitative qui, sur le long terme, peut fonctionner. On ne va pas réquisitionner les travailleurs, à ma connaissance. Donc, vous voyez bien qu'il faut justement permettre que les revenus fournis par les entreprises, enfin, que les profits des entreprises permettent que les revenus soient ensuite supérieurs.
Donc, vous prenez l'augmentation du SMIC.
Oui, mais on la finance simplement par le fait qu'on diminue les charges patronales. On permet aux chefs d'entreprise librement d'augmenter le SMIC. Vous savez, il se trouve que je suis chef d'entreprise. Vous savez, le but d'un chef d'entreprise, c'est effectivement son entreprise prospère et de s'attirer des talents, des capacités de travail et donc de bien rémunérer. C'est pas une logique punitive. C'est simplement, effectivement, si on peut mieux payer les gens, on les payera plus. Mais pour cela, il faut effectivement que la fiscalité sur l'entreprise soit contenue et abaissée.
Donc selon vous, il n'y a pas de problème d'attractivité, notamment dans les Hautes-Alpes?
Non, beaucoup de gens viennent dans les Hautes-Alpes.
En vacances.
Et donc, le problème n'est pas là. C'est au contraire un territoire qui, Madame Allemand, là-dessus, nous en conviendrons, qui présente de très nombreux avantages en termes de cadre de vie, qui est préservé jusqu'à présent pour beaucoup des maux que connaissent bien d'autres endroits en France. Ça ne peut pas, malheureusement, ça ne pourra pas durer éternellement si la politique qui est suivie continue. Mais effectivement, vous avez un territoire qui présente de très nombreux atouts en termes de qualité de vie et qui pourra permettre l'installation de gens venus d'ailleurs.
Marie-Josée Allemand, par rapport à cette question posée par Fabrice, une logique incitative pour permettre justement que ces postes qui ne sont pas pourvus le soient demain, c'est une logique que vous reprenez ?
Vous savez, dans notre territoire, pour reprendre au début du sujet, la main-d'œuvre qui manque, c'est de la main-d'œuvre qui est déficitaire, en fait. C'est des personnes, c'est sur des métiers difficiles, notamment dans l'arboriculture, par exemple. Nos arboriculteurs ne trouvent pas de main-d'œuvre et ils font appel bien souvent, quasiment tout le temps, à la main-d'œuvre étrangère, parce qu'on a besoin de cette main-d'œuvre pour des tâches extrêmement, je dirais, précises, mais répétitives. Donc, et il ne faut pas se cacher sur le fait que notre département a beaucoup d'emplois non pourvus, parce que ce sont des emplois peu qualifiés et qui ne nécessitent pas d'avoir, comment dirais-je, et peu payés finalement, peu payés.
Donc vous revenez voilà. Sur ce que proposait Jérôme Sainte-Marie.
Alors je ne reviens pas sur ce qu'il propose, parce qu'effectivement ça change assez régulièrement. Ce que nous proposons, nous devons pourvoir et apporter à notre département cette main d'œuvre qui n'est pas locale finalement, parce qu'on doit aller chercher ses compétences ailleurs. Et ce que je voudrais dire, c'est que Monsieur Sainte-Marie l'a dit, mais je voudrais revenir plus précisément et fermement là-dessus, c'est que nous, ce que nous proposons, c'est de sortir du CETA, sortir de l'accord du CETA et renoncer aux négociations actuelles sur le Mercosur. Ça, c'est le premier point, parce que nous souhaitons interdire l'importation de toute production agricole, par exemple, qui ne respecte ni les normes environnementales, ni les normes sociales. Ça, c'est un point pour nous qui est essentiel. Et ça met fin tout de suite à la concurrence des lois. Vous permettez, s'il vous plaît, vous avez, je pense, un temps de parole.
C'était juste pour dire que j'étais d'accord avec vous là-dessus, vous voyez.
Alors justement, ça tombe bien que vous soyez...
Ça montre que vous avez bien lu notre programme et son financement, du coup.
Alors ça tombe bien que vous soyez tous les deux d'accord sur ce point-là, puisque on parlait du CETA, c'est l'accord de libre-échange avec le Canada, qui fait cas d'école aujourd'hui, puisque certains disent que ces traités de libre-échange ne sont pas si mauvais que ça. La somme des échanges passés au travers a dépassé les 2000 milliards d'euros. Appliqué à 90% depuis 2017, ça a permis une nette augmentation des exportations françaises de vin, de fromage et de céréales. Finalement, pour certains, c'est plutôt une chose positive.
Je partage pas. Alors, peut-être que certains s'en satisferont, tant mieux pour eux. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Ce point de vue, on le ramène à nos producteurs locaux. Aujourd'hui, nos arboriculteurs ne peuvent pas vendre leur production. Ne peuvent pas vendre leur production parce qu'on est inondé par les produits espagnols notamment. Aujourd'hui, les normes ne sont pas les mêmes. C'est de la concurrence déloyale et je l'affirme clairement et de manière très forte. C'est de la concurrence déloyale. Nous devons à produits locaux ou autres, toute production doit être à normes égales, quelle que soit sa provenance.
Jérôme Sainte-Marie, je vous vois dire oui, avec absolument un grand signe de tête.
Mais absolument, vous voyez, on n'est pas là pour se disputer de manière vaine. Je crois que là-dessus, et Mme Allemand connaît bien évidemment le secteur agricole, je crois que là-dessus, on doit pouvoir trouver des consensus. D'ailleurs, y compris à l'Assemblée nationale, il arrive que des groupes très opposés trouvent des accords. C'est absolument évident. Et depuis ces dernières années, vous avez remarqué que le groupe du Rassemblement national était prêt à voter, y compris des textes d'autres groupes.
Non, mais vous avez voté la réforme de la PAC l'État.
Il semblerait que vous ne souhaitiez pas, qu'on vous interrompe, appliquer cette même règle.
Je pense que j'ai beaucoup de retard sur le temps de parole.
Justement, on a effectivement... Il faut bien comprendre qu'on est sur, Mme Allemand, on sera sans doute d'accord, dans un territoire avec une agriculture de moyenne montagne qui a ses fragilités. Et effectivement, quand il y a des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande sur la viande ovine, ou bien quand on nous propose, ou on veut nous imposer plus précisément, un accord avec le Canada sur la viande bovine, là, à ce moment-là, vous avez effectivement... je crois qu'il y aurait une forme de consensus sur la première circonscription des Hautes-Alpes pour s'y opposer. Ce qui nous entraînera peut-être, notez-le bien, Madame Allemand, dans un rapport de force avec d'autres pays européens, voire avec l'Union européenne elle-même. C'est dans ces moments-là, on voit bien qu'il faut qu'un rapport de force soit posé. Dernier point là-dessus, pour justement tenir compte de la fragilité de l'agriculture et de cette agriculture-ci, nous, on a proposé une mesure bien précise que je vous soumets, c'est l'exonération d'impôt sur les transmissions pour les agriculteurs, en contrepartie d'un engagement à rester propriétaire pendant au moins 10 ans. On fait tout, si vous voulez, pour renforcer l'enracinement et maintenir une agriculture paysanne, ce qui nous amène parfois à nous opposer à certains accords internationaux et à tomber d'accord avec d'autres, comme Madame Allemand.
Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est comment nos producteurs locaux peuvent valoriser et vendre leurs produits de manière correcte et de manière décente pour tirer un revenu clair et qu'ils puissent avoir des fins de mois décentes. Aujourd'hui, c'est ça le sujet. Aujourd'hui, on voit très bien que la loi Egalim n'est absolument pas appropriée à notre département. Et je reviens sur la réforme de la politique agricole commune parce que c'est quand même un point qui est totalement néfaste pour notre département, et j'ai pas peur d'employer ce mot-là, parce qu'elle est défavorable. Nous sommes un département en zone défavorisée. Et ces zones défavorisées ont été rayées de la politique agricole commune, comme elle a été votée en l'État par la droite.
La politique agricole commune.
Je n'ai pas terminé. Cette réforme, cette politique agricole commune, aujourd'hui, comme elle a été votée par l'ensemble de la droite et de l'extrême droite, met en grosse difficulté les agriculteurs de notre département.
Et je vous pose la question qui a été posée par Jérôme Sainte-Marie, vous voulez l'abolir, cette PAC ?
Je ne veux pas, elle est votée. Il faut aujourd'hui réouvrir les négociations et la rediscuter. Parce que nos agriculteurs ou alpins, ça ne vous a pas échappé, c'était il y a 10 jours, ont manifesté auprès des services de l'État pour pouvoir percevoir les soldes. On est au mois de juin. Aujourd'hui, la politique, les soldes de la PAC n'ont pas été versés. Alors, il y a eu un petit effort la semaine dernière, mais ce n'est pas terminé. Elle n'a pas été versée aux agriculteurs. C'est inadmissible. Ça fait plus de 6 mois que nous attendons ces versements. Et aujourd'hui, un agriculteur se suicide tous les jours. Tous les jours, un agriculteur se suicide la plupart du temps parce que ses revenus ne suivent pas. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que les manifestations du mois de janvier, c'est pas un vain mot. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir.
Parce qu'il y a une crainte quand même, on parle de cette crise agricole, on parlera du chômage après, mais il y a quand même cette crainte aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des discussions qui ont eu lieu depuis cette fameuse crise agricole. Aujourd'hui, il y a cette dissolution de l'Assemblée nationale, il y aura une cohabitation. Aujourd'hui, l'inquiétude des agriculteurs, c'est de se dire, au final, tout ça pour rien.
Mais notre département n'a eu rien, on n'a rien eu ici. On n'a pas tenu compte de la détresse, notamment des éleveurs qui sont majoritaires dans le département. Les éleveurs n'ont obtenu absolument rien. Que les choses soient bien claires, le gouvernement Macron n'en a pas tenu compte. Nos élevages font nos paysages. Il faut, si aujourd'hui on peut se promener dans le département et avoir un département, disons-le, ce département est magnifique. Et c'est parce que les éleveurs, les agriculteurs, en général, entretiennent ces paysages par l'élevage, par leur travail, tous les jours. Et je vous rappelle quand même qu'un agriculteur, son travail, c'est 365 jours par an. Oui. Tous les jours, week-end compris. Et les revenus des agriculteurs ne sont pas à la hauteur du temps qu'ils passent sur les exploitations à nourrir. On nourrit les habitants de ce pays. On les nourrit. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, il faut en tenir compte.
Jérôme Sainte-Marie, il faut en tenir compte. Comment, quand on est agriculteur, on garantit de vivre décemment avec son revenu ?
Alors, vous savez, encore une fois, je suis convaincu de la sincérité de Madame Allemand sur ce sujet. je suis moins convaincu qu'elle ne soit pas un peu embarrassée par les propositions de certains de ses alliés, notamment les écologistes, qui jouent un rôle important dans la, comment dirais-je, la surtransposition des normes qui nous place en position de concurrence déloyale. Non seulement on est dans une course en avant en matière de normes écologistes, et dans le même temps, on n'impose pas dans nos traités internationaux, ça a été dit par Madame Allemand d'ailleurs, on n'impose pas, comment dirais-je, le fait de ne pas pouvoir importer des produits qui venant d'autres pays européens et qui, notamment, et qui ne respectent pas ces normes-là, voire de pays extra-européens. Vous avez donc, c'est là-dessus, il y a une simplification des normes que nous souhaitons. Je vous ai parlé de l'installation des jeunes en agriculture. On a également des mesures sur le fait de développer ce qu'on appelle le localisme, c'est-à-dire que, par exemple, les cantines scolaires à acheter de manière soit incitée, voire contrainte, à acheter d'abord des produits de leur environnement.
80%,
c'est le pourcentage. Alors, je ne sais pas si c'est une règle d'or, mais en tout cas, on est parti sur ce pourcentage de 80%, c'est-à-dire que dans les cantines de Gap, par exemple, cantines scolaires, on achèterait à 80% des produits venant des campagnes environnantes. Donc, effectivement, il y a cela. Puisqu'on parle de l'agriculture, on peut peut-être dire un tout petit mot, et là aussi, je ne suis pas sûr qu'au sein de vos alliés, vous soyez tous d'accord. Il faut aussi permettre aux agriculteurs et aux éleveurs, pardon, de travailler en sécurité, également dans la sécurité de leurs troupeaux, ce qui suppose peut-être que l'on ait des mesures plus, comment dirais-je, de davantage de liberté par rapport à la question du loup.
C'est-à-dire davantage de liberté. Ça aussi.
Surtout la convention de Berne, c'est-à-dire permettre effectivement ne pas les laisser, si vous voulez, c'est une revendication très forte, me semble-t-il, dans le département. En tout cas, dans le Rosanais, j'ai souvent été interpellé à ce sujet sur le fait que on a monté une usine à gaz où on interdit à la fois aux éleveurs de défendre leurs troupeaux et ensuite on a toute une série de plusieurs étages où à la fois on leur donne des aides, il y a des assurances, etc. Tout ça finit par coûter très cher et provoque une forme de détresse chez beaucoup d'agriculteurs, notamment d'ovins.
Une question par rapport, on parlait du pôle économique, c'est vrai qu'on a dévié du coup sur l'agriculture et cette crise agricole, mais une question aussi sur le chômage, Anna, que vous vouliez poser.
Donc même si la réforme chômage a été mise de côté par le gouvernement Attal, l'ex-gouvernement Attal, j'aimerais avoir votre point de vue sur le chômage à l'heure actuelle. Le département notamment... comprend beaucoup de saisonniers qui ont été très inquiétés par cette nouvelle réforme, un souci de précarité, un souci de non-reconnaissance de ce statut de saisonnier. J'aimerais avoir votre point de vue à ce sujet.
Marie-Josée Allemand.
Je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire sur les saisonniers. Les saisonniers dans notre département font la vie de notre département, puisque d'ailleurs de nombreux agriculteurs sont aussi saisonniers l'hiver, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc les saisonniers sont inquiétés. Effectivement, il faut revenir sur cette réforme du chômage parce qu'elle n'est pas juste. On a besoin de cette main-d'œuvre qui est qualifiée, même si ça peut paraître anodin, mais une personne qui fait des saisons, elle fait les saisons l'été chez les arboriculteurs, elle fait les saisons l'été chez les éleveurs, elle fait les saisons l'été dans la restauration et l'hiver, idem. Alors, nous avons des stations de ski qui sont très gourmandes en saisonniers. Et là aussi, il faudra se pencher sur le problème de leur logement, parce que c'est important qu'ils puissent se loger décemment lorsqu'ils viennent travailler chez nous, parce que cette main-d'œuvre, on ne peut pas s'en passer. Et sur le... Et ces saisonniers-là, aujourd'hui, on doit avoir un statut qui leur est propre. On doit avoir ce statut du saisonnier qui doit exister. Et il faudra y travailler dessus de manière à ce qu'on ne puisse plus revenir sur cette problématique-là. Parce qu'on le voit bien, les restaurateurs, même quand on regarde la côte atlantique, ils ont d'énormes difficultés à trouver des personnes pour travailler, pour faire les saisons estivales. Et nous avons aussi d'énormes problèmes pour faire les saisons hivernales. Donc, cette problématique-là, il faut la prendre en compte.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, je pense qu'effectivement, l'idée, c'est de faire une forme de statut d'amélioration du statut du saisonnier. Moi, j'y suis absolument favorable. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est, comment dirais-je, comme dans d'autres secteurs, que l'on ait recours à une main-d'œuvre illégale. Vous savez très bien qu'il y a certains secteurs dans lesquels vous avez, en France en général, vous avez le recours à des clandestins, ce qui permet tout simplement de faire pression sur les salaires et de faire que. C'est pour ça, par exemple, je prends vous savez, sur les catégories populaires et notamment les actifs, les ouvriers ou employés votent massivement désormais pour le Rassemblement National, c'est qu'ils subissent cette espèce de concurrence déloyale de travailleurs clandestins. Donc ça arrange certains. Ça arrange, par exemple, parfois les consommateurs aussi peuvent y trouver leur avantage, mais ça place ceux qui travaillent justement dans une situation de pression sur les salaires absolue. Je n'ai rien inventé, ça a été, Jean Jaurès le disait déjà, depuis toujours, la gauche, lorsqu'elle défendait effectivement le monde du travail, la gauche était opposée à l'immigration clandestine, tout simplement parce que c'est la destruction programmée de tous les acquis sociaux.
On poursuit ce débat avec la santé que l'on évoquera dans quelques instants. On marque une courte pause et on se rejoint dans quelques instants. À tout de suite.